Walk the Walk commence comme ça. Nelly, Abel et Ray, leur fille, habitent derrière les marais salants sur les terres hautes où on cultive le riz. Ils n'ont rien à voir avec le riz, ni avec le sel. C'est à cause de Nelly qu'ils sont venus. Elle est chercheuse en biologie. Elle étudie les micro-organismes, les algues monocellulaires, qui vivent depuis 3 milliards d'années dans des mers peu profondes. C'est Robert Kramer qui le dit. La projection de Walk the Walk, ça sera à partir de 19h à l'Alhambra Ciné Marseille, d'où nous sommes donc en direct pour une heure avec Robert Kramer, le réalisateur, Bart Phillips, compositeur, qui a fait de la musique du film, et sûrement Claude Gudin, scientifique et poète, qui joue le rôle du professeur dans Walk the Walk. On se retrouve avec eux dans quelques petites minutes. Radio Grenouille est donc en direct de l'Alhambra Ciné Marseille pour une soirée documentaire consacrée à Robert Kramer. À partir de 19h, on pourra voir Le Manteau, suivi de À toute allure, avant de voir Walk the Walk aux alentours de 21h. Et entre les trois films, Bart Phillips offrira un concert. Bart Phillips, Robert Kramer, bonsoir.
Non, il n'y aura pas de concert.
Il n'y aura pas de concert. Pourquoi, Bart Phillips ?
Il y aura un peu de son.
Un peu de son.
Oui, mais on ne peut pas dire qu'il y aura un concert. Ça, un concert, on a l'habitude de certaines choses. C'est une soirée cinéma, ouais, avec quelques copains qui sont arrivés et qu'il y a un ou deux qui risquent de faire du bruit.
On ne peut pas parler de musique non plus.
Hein ?
On ne peut pas parler de musique non plus.
Après.
Après ?
On peut parler, est-ce que c'était de la musique ou pas de la musique ? Mais là, qui sait ?
Il y a déjà tellement de musique de bar qui va passer ce soir.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que déjà, il y a trois films avec des bons sonores d'enfer. Donc, il y a beaucoup de bar dans cette histoire.
Robert Kramer, Bart Phillips, une longue histoire, on va peut-être en parler au cours de cette émission. Le premier film de Robert Kramer, il date de 1965. Il porte le nom de Falm. C'est
Balm,
ça, Robert Kramer.
Force Armée de Libération Nationale en Venezuela.
De 1968 à 1971, Robert Kramer participe activement à Newsreel et à la production collective de plus de 50 documentaires. Donc Newsreel, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'était ?
C'était un nom qui était pris des actualités qu'on voyait toujours dans les salles, surtout, ça s'est un peu arrêté au cours des années 50, mais comme Gaumont News, comme des choses qu'on voit sur Histoire Parallèle, par exemple, tu vas voir un film,
Patty
tu vas
Marconi,
voir,
oui.
Voilà, Patty Marconi. Right. Et Newsreel a pris ça. Ouais, c'est un peu la base de toute mon histoire, en fait, c'est... j'ai l'impression que la plupart du temps, quand quelqu'un me raconte des histoires, surtout au niveau de cinéma et maintenant au niveau de télévision, ce n'est pas mes histoires à moi. Ce n'est pas seulement moi, mais je crois qu'il y a nous là qui n'est pas présent dans ces histoires-là. Donc Newsreel a tout de suite pris Newsreel, qui veut dire en fait les actualités réelles. Mais si on prend des mots, Newsreel, et puis elle mettez une mitraillette qui va aller... C'est pas le coq, c'est pas le... Ouais. Et puis, il y a des films. Il y avait des films. Et il y avait beaucoup des films très, très libres, très, très différents, qui étaient bien mélangés avec toute cette activité politique des années 60 et 70.
Aux États-Unis.
Pardon?
Aux États-Unis.
Oui.
Mais il y avait combien de cinéastes ou des gens qui...
Bah, écoutez, New York, le Newsreel à New York était entre 60 et 70 personnes.
Wow.
Et puis, il y en avait 8. Il y avait à Boston, en Texas, dans le Sud, en Californie.
Right.
C'était vraiment quelque chose de vraiment formidable. Surtout dans l'idée que, par exemple, dans les premières 3 ans, à la différence à le vieux continent, on était très, très peu sectaire au niveau politique. Il n'y avait pas une dominance des idées politiques. Tout était à trouver. Donc, en plus, les États-Unis un peu plus anarchistes, un peu comme ça. Donc, l'idée, c'était que, par exemple, à New York, où ces 70 personnes se composaient dans des petits groupes qui s'intéressaient avec, par exemple... quelques gens, plutôt les femmes, des films pour les femmes. Il faut qu'on fasse les films pour les femmes. Il faut qu'on fasse les films pour les femmes. Des autres, il faut qu'on fasse des films pour des jeunes manifestants dans la rue. Des autres, il faut qu'on fasse des films pour des Noirs et pour le mouvement noir. Et tout ça, c'est coexister dans un seul organisme. Et c'est ça qui était vraiment rare, tu vois, parce que ça donnait une chose très, très vive dans le contact entre ces groupes-là, entre ces tendances de pensée et finalement entre les formes données. Et on avait les preuves, pas la preuve, mais des exemples de travail différents avec des idées différentes derrière. Et qu'est-ce que ça donnait? Est-ce que c'était utile? Et ces films-là étaient montrés un peu partout et dans des situations presque exclusivement non théâtrales. On n'était pas très intéressés dans le cinéma. Donc, par exemple, vous faisiez un film à cette époque-là. Tous les gens, il n'y avait pas réalisateur, toute cette hiérarchie-là, il y avait une équipe qui faisait un peu tout. Et puis à la fin, tout le monde avait la responsabilité de montrer ses films. Donc par exemple, chaque personne avait l'obligation d'organisation, un peu comme ça, de par exemple arranger et faire tout pour, par exemple, 10 projections. Trouver des groupes,
oui.
Des associations, des jeunes, même à la maison, que quelqu'un invite une dizaine de personnes chez eux. On arrive avec un projecteur, on met peut-être c'est juste un drap sur le mur, et puis pour ça, il faut savoir comment monter le projecteur, tout ça c'est en 16 mm. Donc, c'était une chose où, très très loin d'où on est maintenant, où on dépend sur quelques écrans.
Mmh. Et est-ce que c'était créé en parallèle avec la guerre au Vietnam, ouais. ou plutôt par la guerre?
Mais effectivement, c'est vraiment sorti d'une énorme manifestation au Pentagon en 67.
D'accord, oui. L'assaut du Pentagone.
Voilà. Ouais. Mais il y avait tellement de force derrière par rapport à déjà 5 ans des histoires de droits civils des Noirs.
Oui.
Et puis, cette guerre qui était en train de monter en violence tout le temps. Donc, il y a un peu ces deux choses-là.
Uh-huh. Et puis, donc, ça a créé des archives énormes. Si je veux dire, les documents doivent être
des
kilomètres.
Ce qui est lourd, c'est que parce qu'on a travaillé complètement sans copyright et avec aucune idée de droit d'auteur,
oui.
Il y a pas mal des individus maintenant qui vivent sous ce travail-là en vendant tout ça.
Oula.
Parce qu'il n'y a aucun contrôle.
D'accord. Les malins, ils
étaient là. Et puis il y avait une telle fascination de réécrire les histoires des années 60 dans les années 80 qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup vendu des trucs.
En 71, vous quittez Newsreel. Ça veut dire que Newsreel, ça s'arrête?
Ça continue sans moi. Ça est devenu un peu moins intéressant pour moi. C'est devenu de plus en plus, disons, sectaire, mm-hmm. dans la manière de penser des films de propagande. Et puis, bon, j'ai juste m'en allé. Mais il y avait aussi une autre chose, c'est-à-dire qu'en 69, je suis allé au Vietnam du Nord.
Mm-hmm.
Et bon, c'était en pleine guerre. Et on a fait un film qui s'appelle « La guerre du peuple ». Et c'est vrai que cette vision concrète des Vietnamiens, disons les peuples vietnamiens qui résistaient à cette énorme force de armée des États-Unis, ça faisait vraiment une telle impression, c'était très très difficile de retourner à l'idée tout de suite de faire des films. Donc je crois que les 3 personnes qui ont fait cette film ensemble, sont retournés pour monter cette ferme et pour faire que c'était vous, la guerre de peuple. Et après ça, on a un peu laissé tomber le cinéma pour des choses un peu plus concrètes, avec un sens qu'il fallait qu'on fait plus. On peut pas prétendre juste de faire des films. Mais il y avait cette histoire de mettre son... Bon, la phrase en anglais, c'est mettre ton corps sur la ligne. C'est un peu walk the walk quand même.
Ouais.
On y arrive.
On y arrive. Walk the walk, peut-être on va commencer par dire ce que ça signifie, Robert Kramer.
Ça veut dire il faut assumer. Il faut assumer tes pensées, tes désirs, tes actes, accepter les conséquences. Littéralement, ça veut dire, bon, en anglais, if you talk the talk, you better walk the walk. il faut assumer le sens de vos paroles. Mais bon, vaut mieux peut-être. Faux, c'est un peu lourd, toujours. Il faut.
Vaut mieux. C'est un vocabulaire courant ou c'est un vocabulaire
C'est quelque chose, c'est de pas l'argot, je ne sais pas le mot.
L'argot, oui.
C'est une chose de la roue dans la communauté noire. Et ça date des années 60, effectivement. Et ça avait beaucoup à voir avec la partie des Panthères noirs. Et c'était par rapport à les gens qui se déguisaient, mais qui se présentaient en habit de Panthères noirs, c'est-à-dire des machos, des militants, des gens qui s'étaient prêts en principe pour mourir pour leur peuple. Et puis, quand les choses étaient dures, ils se disparaissaient dans les bars. Donc c'était particulièrement ironique.
Radio Grenouille en direct de l'Alhambra pour cette soirée documentaire consacrée à Robert Kramer qui présente en avant-première ce soir Walk the Walk. Son dernier film vient de nous rejoindre Claude Gudin qui est scientifique, poète et puis qui joue un rôle dans ce film, le rôle du professeur. On parlait tout à l'heure de la signification de Walk the Walk, Robert Kramer, qui signifie assume-toi. Est-ce que le titre porte le sens de ce film?
Oui, mais demande à un autre là. Oui, je crois que le titre porte le... C'est un bon moment de walk the walk. Les choses sont tellement un peu gris, un peu confus comme ça, brouillard et tout. À ce moment-là, c'est bien de tracer son trace. D'aller vers les choses que... Oui, je crois bien que le titre résume pas mal. Un film, si c'est bien un film, c'est pas des idées. Les idées viennent après peut-être, mais c'est un certain type d'expérience. Et je crois que où je suis content avec ce film, c'est que j'ai l'impression qu'on vit quelque chose en passant par là. Et puis... ça prend un moment de peut-être savoir qu'est-ce que c'est qu'on a vécu. Mais on vit quelque chose. Là, je crois que c'est une des grandes lignes de séparation entre les films là-dedans. Les films qui tout subjuguent, hein, te dominent avec un désir de se montrer. Bon, ça, c'est surtout le cinéma grand public, c'est ça. Et puis, je ne sais pas si dans cette circonstance-là, on dit qu'on a vécu quelque chose. On a subi quelque chose. On a subi Schwarzenegger, on a subi Bugs Bunny, on a subi... Ça peut être bien. C'est pas une critique à ce niveau-là. Et puis, il y a un autre cinéma qui veut qu'on vit quelque chose. Et qu'on vit... Vie veut dire qu'il y a un dialogue quelque part. Qu'il y a... Ça va dans les deux sens. Donc, oui. Ça...
Robert Kramer, quand on lit le petit résumé que vous faites de l'histoire de Walk the Walk, où on apprend qu'il s'agit d'une famille, Nelly, Abel et Ray, qui habitent derrière les marais salants et qui sont venus là à cause du travail de Nelly, qui est chercheuse en biologie, on n'entend pas tellement ce que vous dites. On a l'impression que c'est un hasard que ces trois personnages se retrouvent là, alors que le lieu a l'air d'avoir son importance dans la vie de cette famille.
Je crois que le problème, c'est les synopsis. Ouais, c'est le même problème. On est obligé d'essayer de résumer quelque chose dans une optique. Donc, moi, je dirais, c'est mieux que tu vois le film.
Mais moi, je me souviens, quand tu m'as parlé de film, avant que tu aies écrit le scénario, tu étais intéressé dans ces trois branches-là. C'est-à-dire donc la fille qui sort, hein, et le coureur et le scientifique en biologie, en biochimie, parce que tu étais intéressé vachement par ça, parce que tout ce qu'on arrive aujourd'hui en physique actuelle, physique actuelle, et les physiques, le corps, le coureur, etc. Tu étais très branché là-dessus, avant d'écrire le scénario. Ça, je me souviens bien. Tu m'as parlé... Quand tu commences à parler de films, il y a quelques blocs, quelques idées. Et ces personnages-là, ils étaient là avant qu'il y avait l'histoire.
Oui, mais c'est une manière de dire, si j'ai compris, dit, mais le lieu doit être très important dans tout ça. Mais je crois que le lieu était primordial. Donc il y avait ces trois choses-là, et je suis assez certain que même au début, c'était une histoire de la Camargue.
Oui.
Et puis c'est là où j'ai cette rencontre complètement par hasard, jamais par hasard, jamais coïncidence, mais cette rencontre avec Claude qui m'a expliqué un peu ça. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette lieu-là dans la Camargue?
Oui, en fait, il y a quand même une logique dans le choix de la Camargue, puisque le sportif, qui est un coureur de fond, avait besoin d'espace plat, un peu élastique pour courir. Et Nelly, qui est une biologiste qui étudie les algues microscopiques, il y a beaucoup d'algues en Camargue. Hein, quand on regarde les eaux qui sont colorées en rose ou en vert. Donc il y avait une logique que la spécialiste, le professeur spécialiste des algues de Marseille, puisque c'est le travail de Nelly, il y avait une logique pour qu'elle vive en Camargue. Et vous remarquerez en voyant le film que c'est pas la Camargue du tourisme qu'on présente, c'est vraiment la Camargue du travail. On commence par un gros plan de machine qui racle le sel au salin, on voit la récolte du riz. La plupart des scènes se passent soit le soir, soit le matin. Rien n'est complètement baigné de soleil comme on a l'habitude de voir la Camargue. À la limite, le spectateur ne la reconnaît pas, la Camargue, parce que celle qu'on nous présente habituellement dans les films, c'est toujours celle des dépliants touristiques. Et voilà.
Claude Gudin, quelle peur vous avez à la réalisation, au montage, à l'élaboration de ce film Walk the Walk?
Oh ben une part bien modeste, mais un très très grand plaisir d'y avoir participé. Ça s'est passé de la façon suivante. En fait, c'est pas tout à fait un hasard. Moi, je suis très complice avec Bernard Luba, qui organise un festival de jazz régulièrement à Uzest, et qui vit avec Laure Dutilleul, qui est la comédienne qui avait travaillé déjà
à toute allure
avec Robert. Et Laure avait conseillé à Robert de me rencontrer pour discuter du rôle de biologie. Et puis bon, on a très très vite moi j'étais très très vite intéressé par l'histoire de Robert, par le personnage. J'ai aussi une chance assez extraordinaire de rencontrer l'un des rares créateurs indépendants du cinéma qui nous donne autre chose que le cinéma qu'on a l'habitude de voir. Et puis la rencontre, j'ai aussi un souvenir très ému de la première rencontre avec Barre là, dans sa chapelle, où on a entre parenthèses descendu une bouteille de poire William pendant toute la soirée.
J'ai certains souvenirs, oui.
C'était plutôt agréable.
C'était très bon.
Donc la participation, ben, c'est ça, j'ai un peu conseillé. J'ai un peu joué le rôle du parasite là-dedans. J'ai un peu parasité l'histoire en ce sens que j'ai fait passer le peu que je savais dans Laure Dutilleul. Et si on regarde bien le film, les gestes de Laure Dutilleul sont des vrais gestes de microbiologiste. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai travail d'apprentissage. Et finalement, ben, j'ai un peu transféré mon personnage dans... chez Laure, quoi. Voilà le rôle que j'ai joué. Ceci dit, on a eu de très très longues discussions avec Robert sur les images, sur le sens des images. On a beaucoup parlé de mathématiques, de théorie du chaos, de mathématiques fractales. Et si on regarde bien les images, il y a au niveau de la conception, c'est pas un film bavard, il n'y a pas beaucoup de mots, c'est des images qu'il faut regarder dans les films de Robert. Et plus tard, on découvrira ce discours mathématique au travers des images. Je suis d'ailleurs très surpris qu'il y a eu un prolongement à nos discussions, parce que dans le dernier film qu'il a fait, qui s'appelle Le Manteau, si vous regardez le générique de la fin, ça ne s'appelle pas générique quand c'est à la fin, enfin peu importe,
oui, c'est générique.
Il y a une magnifique série... d'images fractales, d'images du chaos qui sont comme des figures de Mandelbrot, et ça moi j'aurais aimé voir ça dans Walk the Walk parce qu'on en avait beaucoup parlé, mais on le retrouve voilà, il y a des voilà le rôle que j'ai joué, quoi. Lui m'a parlé de ce qu'il connaissait bien, moi je lui ai parlé de ce que... Et c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir participer à une telle œuvre.
Robert Kramer, l'intérêt pour la science et pour la biologie, elle vient de ce rapport entre justement la recherche d'images et de vérité des images que peuvent avoir les cinéastes et puis la recherche de vérité que peuvent avoir en tête les scientifiques.
Oui, c'est vouloir aller au fond des choses. Et je crois que par exemple dans les humanités ou certainement dans la culture, on est très très cloisonné de ce qui est moteur du monde, qui à mon avis est le travail scientifique au plus haut niveau. Donc à mon avis c'est des conceptions dont Claude parle qui risquent de changer profondément la manière qu'on veut même toucher l'épaule de quelqu'un qu'on aime. Ou la manière qu'on se regarde dans le miroir, ou une différence dans la manière qu'on approche sa fille, tu vois, ou ses enfants, ou son chien, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est susceptible à complètement bouleverser des choses. Mais ce que j'entends là, c'est plutôt comment, jusqu'au où moi j'aime danser. C'est-à-dire, voilà deux de mes meilleurs amis du monde, tu vois, Barre et Claude, et c'est aussi parce que je les invite dans ces aventures et puis ils bouleversent l'aventure. Ils arrivent chaque fois, bon, je suis sûr que Barre peut le dire mieux que moi, mais j'ai l'impression que je porte mon petit cassette d'une sorte de début de montage, je le donne à Barre, il commence à vivre avec ça et je ne sais jamais qu'est-ce qui va être renvoyé vers moi parce que en fait moi je ne le contrôle pas. Et ça ne m'intéresse pas beaucoup d'essayer. Donc, il prend ça et il entre dans le film et je crois qu'il voit son film à lui. Et je comprends maintenant que son film à lui n'est pas antagonistique, on dit en français, oui. Antagonistique. Opposé à le mien, tu vois. Mais ça m'amène quelque part dans la même manière que Claude dit. Ah oui, mais évidemment, les flamants roses sont roses parce qu'ils mangent des micro-organismes. Moi, je ne savais pas ça.
Ben, Philippe,
bonsoir.
Rebonsoir. Sur combien de films avez-vous travaillé avec Robert Kramer? Je crois que ça fait un petit moment que vous travaillez ensemble.
12. On dit 12.
12.
On dit ça.
Allez, on va dire 12. On sait plus.
11. 12. 10. 13.
Ça va continuer longtemps?
1. 10.
Ça risque de continuer longtemps.
Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble. C'est pas que chaque fois je suis avec Robert, mais presque tout le temps.
Oui.
Depuis
et même quelquefois quand j'ai pensé que tu n'étais pas là.
Oui.
Tu m'as persuadé que j'avais besoin de musique.
Vous faites d'autres musiques de films, mais vous revenez souvent aux films de Robert Kramer. Alors qu'est-ce que...
Non, je ne suis pas un musicien de musique de film.
Non, je sais bien, mais vous en avez fait un certain nombre.
Très peu, à part le travail de Robert. Très peu. Un ou deux.
Ah oui.
Oui, c'est tout. Sauf si j'oubliais plein de trucs. Non, je ne suis pas quelqu'un sollicité comme fabricant de musique de film.
Et on pourra savoir pourquoi vous revenez comme ça vers Robert Kramer régulièrement.
C'est ce qui me fascine dans le travail, parce qu'il y a un chemin à travers le temps comme ça, c'est que ça avance toujours en avant. Le point d'interrogation, il devient de plus en plus clair avec le passage des années. Et donc c'est toujours une nouvelle aventure. C'est-à-dire, nous, on est toujours pareil. Moi, je fais une musique. Cette musique, peut-être il y a une évolution, peut-être il n'y a pas. Moi, je ne sais rien sur ce que je fais. Hein, pas grand-chose. Hein. Je sais un tout petit peu, quand même. Mais dans le sens de voir l'évolution d'un travail chez mon ami Robert, à travers le temps, comme ça, moi, je suis toujours restimulé à me remettre en question, à me retrouver quelque part. Donc, s'il y a toujours la même chose ou pas, comme je viens de dire, je n'en sais rien. Mais c'est ça qui me fascine. Et je crois que c'était avec Walk the Walk que j'ai pas un an, 6 mois ou un an avant que la production commence, avant le tournage, avant tout, j'ai dit, Robert, j'ai besoin de travailler avec toi. pas pour le cacher, parce que cinéma, c'est pas une question de cacher, mais personnellement, parce que je crois, c'était depuis Route 1, on n'avait pas travaillé. Le film sur le Vietnam, il n'y a pas de musique de film. Et justement, il n'y a pas. C'est très juste qu'il n'y a pas. Il ne faut pas. Et là, et moi, j'avais besoin de re-entrer, après quelques années de ne pas avoir touché ce travail avec Robert, de re-entrer dans... Parce que c'est très stimulant. C'est très dur aussi. Hein, c'est pas...
Vous parlez d'un point d'interrogation qui devient plus clair. Il se situe où, ce point d'interrogation, chez Robert Kramer?
ça change tout le temps, mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est la question qui est omniprésente, hein, et tout le temps présent. Mais de le poser comme ça, qu'est-ce qu'on fout là? Ça veut dire pas grand-chose. Mais donc, pour moi, le questionnement devient de plus en plus clair dans le travail. Hein? Que la question est le problème, c'est pas la réponse, c'est de former la bonne question. Hein? La réponse, c'est autre chose. Je crois dans ce genre de travail, pour moi, hein, parmi mes autres travaux que j'ai fait dans la musique, c'est celle que j'ai avec Robert qui est le plus clair. C'est quoi la question? Essayons de poser une question, quoi, qui a un sens et qui vaut quelque chose. Qui donne quelque chose. Parce qu'avec l'image qui n'est pas abstraite, mais où il y a du texte, il y a d'histoire, etc., là, on ne peut pas éviter le monde et qu'est-ce qui se passe. Ou soit on cherche à faire de commercial, donc c'est toute une autre approche. Donc, ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse. Ce n'est pas de tout ça, même.
Claude Budin, vous avez l'air d'acquiescer le...
Pour moi, c'est ça, dans un travail, si on pourrait arriver avec une vie à réduire tout ça à une question claire, c'est pas zen ça, mais c'est une question, c'est très intellectuel pour moi, et de dire, mais la question est, ça sera génial.
Mais, vous avez l'air d'acquiescer, Claude Gudin, le discours
donc,
de
Barre Philippe.
Donc, je dis,
la question devient plus en plus claire, c'est ça que je veux dire. Oui.
Ah ben oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que Barre Philippe dit et Robert fait, quoi. C'est aussi mon métier. Moi, je fais pas de cinéma, je fais pas de musique, je fais de la recherche, c'est-à-dire que on n'arrête pas de se poser des questions et surtout pas de les résoudre, puisque ça c'est jamais fini. En plus, quand on croit les avoir résolues, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça, qu'il y en a d'autres qui ont un point de vue différent. Mais on essaye de bricoler quelque chose, quoi, pour que les choses aient un sens. Et je crois que la complicité qui est née entre nous a été très spontanée parce qu'on a on a sur les choses le même regard, les mêmes craintes et les mêmes espoirs en même temps. C'est parce que le monde n'est pas... Le monde est gris, on n'y voit pas très clair, mais enfin, beaucoup d'autres avant nous ont trouvé que les choses marchaient pas bien et on est toujours là malgré tout. Et c'est ça, il me semble aussi, qui est intéressant dans Walk the Walk, c'est que c'est pas un film gay, mais c'est pas du tout un film désespéré. Il y a quand même... On voit que les choses évoluent, les choses bougent. C'est un monde très très difficile, mais chacun malgré tout arrive à y trouver sa voie. Le parcours de la jeune fille, par exemple, n'est pas un parcours désespéré du tout. C'est un parcours difficile. Elle essaye de localiser justement les bonnes questions, où sont les vrais problèmes, et elle essaye surtout de les regarder en face, de ne pas les éviter. Et de vivre avec pour aller plus loin. Et je crois que dans l'œuvre de Barre, dans l'œuvre de Robert, on trouve ce souci permanent d'aller, d'aller toujours plus loin, quoi, avec les, avec cette constante interrogation que j'aime bien la façon dont je le résume. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi, au fond, c'est vraiment la clé du problème.
Radio Grenouille est donc toujours en direct de l'Alhambra pour une soirée consacrée à Robert Kramer, cinéaste, documentaire ou pas, documentariste ou pas, il va peut-être nous le dire, puisque tout à l'heure j'annonçais une soirée documentaire à l'Alhambra.
Well, puisqu'on est en radio,
yeah.
Tu sais que la radio c'est beaucoup plus honnête que tout le reste, parce qu'il y a un tel sens de la non-existence de nos écouteurs ou nos
auditeurs,
tu vois, j'ai l'impression toujours de parler. Alors, la seule raison pourquoi je réagis du tout, c'est vraiment par rapport à l'idée que j'ai l'impression que cette émission doit faire la meilleure invitation possible que les gens viennent voir les films. Donc, je sais de longue expérience, vaut mieux que des films sont des films épatants de fiction et tout, qui sont des documentaires. Bon, effectivement, moi, je m'en fous. Je crois que tout ça c'est dépassé, documentaire, fiction, tout ça ça appartient à des idées assez périmées par rapport à une idée solide de ce qui est réel, que tout ce que la science nous a raconté et tout ce que notre propre expérience a raconté est une chose beaucoup plus compliquée et malléable et qui dépend sur une espèce d'interaction entre la personne qui le voit et quelque chose qui est là, et qui donne une forme de ça à travers une interprétation. Donc, en fait, ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si ça intéresse les spectateurs, et ce n'est pas très important que ça les intéresse, parce que c'est un peu mon travail. Mais en tant qu'être humain, ça devait intéresser les gens. Et c'est la même chose. Moi, je crois que je pouvais dire, après ce que Barr a dit avant, par avoir à de se mettre devant la question. Moi, je crois que chaque coup, l'objet du film, c'est de me mettre devant quelque chose que je ne sais pas comment traiter. Je ne sais pas comment avancer avec cette matière-là. Ça m'intéresse. C'est une manière de faire le point pour moi dans ma vie. Donc, je vais un peu plus loin. Disais que presque la seule culture qui m'intéresse maintenant, c'est la culture in extremis, c'est-à-dire des gens qui font des choses parce que s'ils ne font pas ça, ils vont devenir fous ou folles, ou enragés, ou ils vont tuer quelqu'un, ou peut-être que c'est souvent mieux de faire ces choses-là que de faire des cultures. Mais bon, de toute façon, il y a un vrai besoin. C'est, pour le reste, c'est juste comme le hypermarché, tu vois, c'est juste encore des boîtes de conserve, des choses comme ça. Mais ça ne va pas très loin si on veut inviter des gens de voir les films, parce qu'on peut dire, mais pourquoi je m'en fous que tel et tel a fait une culture faite de son je sais pas. Mais au fond, c'est vrai ça. Et ce qui m'intéresse, c'est cette besoin-là. Et,
si le but de cette émission, c'était parler du cinéma, il y a une phrase dont vous parlez à propos de Walk the Walk et qui dit « Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différence entre filmer et vivre ». C'est ça, c'est le besoin, c'est là ?
Oui, mais je crois bien ça. Et je crois qu'il ne faut pas trop déformer ce qu'on a appris en vivant juste parce qu'on fait un film. Donc il faut changer la manière qu'on fait des films. Il faut changer la manière qu'on tourne. Il ne faut pas demander tout le temps à des gens de déformer leurs mouvements ou leurs paroles ou leur manière de regarder et tout, parce qu'à cause de lumière ou à cause des exigences de son, il faut trouver une manière de laisser respirer des choses. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre filmer et vivre.
S'il y a dans Walk the Walk deux personnages qui sont biologistes, c'est-à-dire quelqu'un qui observe, et un coureur, quelqu'un qui se sert de son corps, c'est aussi un peu une métaphore du cinéaste.
Beaucoup. Bah, mais je me sentais bien proche à cette coureur qui a cette passion qu'il il n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même un moteur. Donc il aime bien le sens de son corps qui bouge à travers l'espace, qu'il reçoit énormément d'informations, des messages à travers, c'est pas vraiment quelqu'un qui pense beaucoup, Abel. Et puis, dans la manière que ça devient le moteur de sa vie et de toutes ses rencontres dans le film et tout ça, je trouve que le cinéma a fait un peu ça pour moi. Et j'ai l'impression d'être aussi en passage que lui, que le cinéma, c'est quelque chose très, très dangereux au niveau éthique, parce que ça donne les rencontres très, très fort et ça justifie toujours le départ. Parce que c'est quelque chose qui se fait, je suis là, je donne tout, je demande tout, et puis je vais à la prochaine décor, entre guillemets. Et là, c'est quelque chose qui est inscrit dans cette histoire de cinéma, je crois. Donc, c'est très dangereux, ça. Mais aussi très riche. Donc, c'est un peu dans le comportement d'Abel dans le film, je trouve. Donc, je ne sais pas exactement comment justifier ça, mais chose, ce n'est pas de justifier les choses, c'est la chose, c'est de travailler avec ces choses-là. C'est bon, je suis bien dans cette histoire de cinéma. Il ne faut pas qu'à la fin de chaque film, je dise je vais arrêter de faire des films que j'ai dit pendant 30 ans. Et il vaut mieux pas arrêter à un certain moment de dire ça et dire bah, apparemment, ça, c'est ma vie, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Alors, je travaille avec ça. Ça, c'est ce qui était donné pour travailler avec. Dans le manteau, ça devient. Le film Le Manteau, ça devient l'archéologue qui dit le manteau m'était donné pour. Donc, ses préoccupations avec ce manteau-là est devenue la matière qu'il a dans sa vie. Il ne faut pas chercher plus loin parce que c'est une matière qui peut devenir aussi riche que notre imaginaire. C'est un peu nous qui investissons l'intérêt dans les choses. C'est pas on dit toujours ma vie n'est pas intéressante, une meilleure vie est là. Mais il y a aussi une possibilité, c'est la manière qu'on regarde sa propre vie. C'est ça, par exemple, la jeune fille à la fin, elle a dans sa main, la fin de Walk the Walk, elle a dans sa main le chiffre pour son test de sida. Et elle dit, bon, je ne vais pas tout de suite, je vais attendre. Et c'est cette idée-là de profiter d'un moment. Bon, là, c'est un moment d'incertitude totale. Dès qu'elle va poser ce papier-là, si elle est séropositive, elle est séropositive pour le reste de sa vie. Si elle est négative, il faut qu'elle fasse un autre essai. Parce qu'un essai, ça ne va pas. Donc, il y a un moment là où, avec beaucoup de courage, je dis, moi, je vais vivre cette incertitude parce que c'est extrêmement riche. Ça ne va jamais se reproduire comme ça. Et c'est cette idée-là d'investir un moment, c'est quelque chose qu'on fait avec une richesse qui est effectivement un produit de notre imagination morale, éthique.
Si on doit mettre un petit lien aux trois films qu'on va voir ce soir, que entre Le Manteau à toute allure et Walk the Walk,
très bien.
Pourquoi vous avez choisi ces trois films?
Alors, Le Manteau, on voit ce soir, parce que c'est le dernier film qu'on a fait, et je dis on, parce que là, c'était une forte collaboration avec Barr. On a mixé le film et nous, on n'a jamais vu le film. Donc, on n'était pas ici quand ça passait à la télévision. Et on a très envie de voir si on s'est foiré complètement ou si c'était aussi bien qu'on a pensé ou qu'est-ce qui se passe là. Et je ne sais pas non plus comment ça s'enchaîne avec Walk the Walk parce que c'est un film qui a été fait après Walk the Walk. Donc là, je suis très, très curieux de voir si c'est vraiment autre chose ou effectivement c'est une espèce d'addendum ou quelque chose. Alors là, on joue au début parce que dans quelques minutes, donc il faut que des gens partent tout de suite pour arriver à l'endroit, parce que c'est un peu à part. Et puis, à tout à l'heure, il y a un film que j'ai fait avec Lord UTL en 81, et qui était une sélection officielle à Cannes, qui n'était jamais sortie pour les raisons de droits musicaux, qui sont tous les tubes de 81, plus la musique de Barr, au début et au milieu et à la fin, et qui est, disons, à l'origine de Walk the Walk. Parce que quand j'avais l'idée de film, ces trois personnages, je ne pouvais pas trouver à qui demander de jouer Nelly, la mère. Et il y avait plein de raisons. Mais finalement, le moment quand j'ai pensé à Laure, pour jouer le même personnage qui est dans À toute allure, presque 20 ans plus tard, donc dans À toute allure, patineuse, rebelle, un peu pré-punk, comme ça. Maintenant, 20 ans plus tard, l'âge de sa fille qui veut partir, avec un oubli complètement de cette rage qui était en elle quand elle était cet âge-là, tu vois. Donc, en fait, c'est la première fois qu'on a vu À toute allure avec Walk the Walk aussi. Donc, très curieux ce soir. On verra bien.
Ce soir, c'est donc à l'Alhambra, Walk the Walk, À toute allure, Le Manteau et Du Bruit, fait par Bar Phillips avec sa contrebasse. Bar Phillips, Robert Kramer, Claude Gudin, merci beaucoup. La soirée à l'Alhambra, c'est donc à partir de 19h. Et sur Grenouille, vous retrouvez tout de suite Mathéo.